Natal Moubarak, voilà, voilà comment on dit joyeux Noël, Natal Moubarak, en Gujarati, mais aussi en Hindi, on dit Natal Moubarak. Alors ça fait un petit peu arabe, Moubarak, et ben c'en est, c'est de l'arabe. Et Natal, et ben ça fait un petit peu espagnol, ça fait un peu portugais. C'est pas étonnant puisqu'on est en Inde, toujours aujourd'hui, toujours à Ahmedabad, Gujarat. Et aujourd'hui, il nous est arrivé plein de choses formidables, dont une rencontre avec Saroj. Saroj est une jeune et jolie femme qui va se rendre bientôt au Forum social mondial qui va se tenir à Bombay en janvier et qui va s'y rendre avec les Dalits, c'est-à-dire avec les intouchables. Il y a une grande délégation d'intouchables, il y a des grandes marches d'intouchables à travers l'Inde qui se rendent à ce Forum social mondial. Et pourquoi elle s'y rend, Saroj, qui est une Dalit, donc une intouchable? Eh bien parce qu'elle a fait quelque chose d'extraordinaire, elle a osé tenter d'ancrer dans le temple de la caste supérieure. Et ça, c'est absolument interdit, c'est absolument prohibé, ça se fait jamais. Et elle a tenté de le faire, elle l'a pas fait, mais elle a tenté de le faire. Alors on l'a dissuadé en lui disant que la déesse allait s'envoler, allait partir, allait émigrer. Et donc Saroj ne l'a pas fait, mais ça suffit, cet acte est assez héroïque pour que sa communauté et ses amis soient tout heureux qu'elle se rende pour la première fois de sa vie évidemment à Bombay. Donc rencontre aujourd'hui avec les Dalits, avec les intouchables. 200 millions en Inde, hein, 200 millions en Inde, et ici dans le Gujarat, 45 millions d'habitants, ils sont 3 millions et demi d'intouchables. Une chose incroyable, c'est des intouchables qui sont des ramasseurs de merde. Oui, 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 des ramasseurs de merde, j'ai bien dit ramasseurs de merde. Les toilettes publiques n'ont pas d'équipement spécial. Alors c'est depuis très longtemps, les intouchables qui font ce boulot, ils ramassent la merde à la main, la merde des autres. 45 000 rien que pour cet état du Gujarat où nous sommes, et 1 million d'intouchables qui, à travers l'Inde entière, ramassent tous les jours la merde dans les toilettes publiques. Voilà la condition des intouchables, des Dalits, que Saroj ira défendre au Forum social mondial en janvier. Aujourd'hui, 24 décembre oblige, des contes, des histoires pour les petits-enfants qui attendent Noël avec impatience, évidemment. Et puis une petite réflexion personnelle, tout à fait personnelle, concernant les chameaux. Ici, je croise pas mal de chameaux, et je voudrais qu'on revienne un petit peu sur une image de ces animaux. On les ridiculise, et je les trouve au contraire très beaux, très élégants, tirant des charrettes le long des routes et des chemins. Ici, ils sont tout à fait étonnants, et encore plus étonnants, on les décore ici. On orne son chameau, on fait des décors en noir avec des sigles, des symboles sur son chameau. Et moi, je me verrais bien ici finir ma vie comme peintre de chameau, à moins que j'arrive à retrouver le chemin du retour. En tout cas, à tous, Natal Moubarak.
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas si j'y suis. De belles histoires pour les petits-enfants de là-bas.
Flight number 2, arriving from New York.
Monsieur Brin d'Avoine avait 400 maisons. Parfaitement. Monsieur Brin d'Avoine avait 400 maisons et pourtant aucune ne lui donnait entière satisfaction. Il en possédait de toute nature et de toute dimension. L'une était si petite qu'elle tenait dans la main. Le toit s'envolait avec un doigt. La clé était une allumette. Une autre était si grande qu'il y avait des montagnes dans les chambres, des paquebots dans les lavabos, des forêts dans les cabinets. Celle-ci était tellement haute que seule une échelle pouvait y loger, et encore c'était une échelle de pompier. Une autre était tellement lourde qu'elle s'était enfoncée dans la terre jusque chez les Chinois, si nombreux, et qui pourtant n'avait jamais vu ça. Mais il en avait une aussi qui était fort légère, tout en plumes, et si on ouvrait la fenêtre, on pouvait s'envoler. Il avait une maison avec une clé, tirée par un cheval qui marchait au bord d'un canal. Il avait une maison. C'était un violon. Il faisait sécher son linge sur les cordes, et l'archet glissait, et ça l'énervait, ce monsieur Brin d'Avoine, et ses 400 maisons qui ne lui apportaient aucune satisfaction. Pourtant, on ne peut pas dire que Brin d'Avoine manquait d'imagination. L'une de ses maisons était si large qu'une ligne d'horizon pouvait s'y coucher. Avec les îles, les cocotiers, les nuages en chemise, l'océan déchaîné. Il en avait une, c'était une gare. Des locomotives sous les couvertures vous tenaient compagnie internationale des wagons-lits et des grands express européens vous tenaient par la main. Une autre comportait cinq doigts en laine, et les passants disaient « Oh, cette maison vous va comme un gant !» Il en avait une construite en nostalgie, les murs étaient en miroir, les fenêtres en Arménie, les porte-bagages et les parapluies. Oui. Monsieur Brin d'Avoine avait passé sa vie à courir, à construire, à dessiner, à vendre, à acheter, palais, grottes, tentes, gratte-ciel, nids, roulottes, cabanes dans les arbres et château neuf du pape. En réalité, sans le savoir, il avait consacré son existence à rechercher la toute première maison qu'il avait habitée. La toute première, une maison au fond de la mer. Sans ascenseur, mais sans étage. Sans fenêtre, mais sans mur. Sans cheminée, mais sans toiture. Une mer, dedans, quand on nageait, c'est comme si on volait. Les oiseaux n'ont pas de mémoire. Mais la mer le sait. Les oiseaux ne sont que d'anciens poissons, et je m'adresse aussi aux perroquets. Monsieur Brin d'Avoine, donc la mer, c'était donc sa toute première maison. Une mer qui vous berçait. Vous balançait, vous roulait, vous suçait. Le lobe de l'oreille, vous parlant tout bas. Et qui vous racontait qu'autrefois, avant d'être la mer, elle était une île, une petite île, une ancienne petite île. Et d'autres histoires encore. Ou bien de la musique, elle faisait de la musique, du saxophone. Et de la batterie. Oui, au fond de la mer, jour et nuit, on entend jouer un batteur de génie. C'est le cœur de la mer, qui change de rythme et de couleur selon ses émotions. La lettre qui arrive, une chanson à la radio, une colère, un bouquet, un avion, un instant d'hésitation, et l'homme de sa vie dans l'escalier qui lui mordit le cou, et le batteur change de rythme à chaque coup. Et puis l'amour, quand la mer fait l'amour, force 5 sur Gascogne et Cap Finistère. Et lui, au fond de cette maison, Brin d'Avoine, pris entre les feux de l'amour et les grognements du père dans les bras de la mer. Tous, vous m'entendez? Au fond de nos ténèbres, nos moelles et nos vertèbres, nous gardons le goût de ça. La stupéfaction d'amour. L'infracassable noyau. Quand la vie est imprenable, juste avant le point du jour. Jusqu'au jour où il y eut cette tempête, cyclone sur les Açores, grand fort sur Forti, ébaloté, ballonné, écrasé, aspiré, explosé, expulsé, il a été précipité au fond de la mer, bousculé, étouffé, écrasé. Monsieur Brin d'Avoine s'en va par le fond. Les parois se déchirent. Et au fond de la mer, qu'est-ce qu'il y a? Ah ben c'est comme dans une baignoire, il y a une bonde. Et la bonde s'est ouverte, comme une fenêtre ronde ouverte sur le monde. Et l'eau s'en va en tourbillon. Il franchit une montagne russe, où il est écrit « Col de l'utérus ». Il traverse un palais secret, une grotte miraculeuse. Sa tête touche le plancher, ses épaules frottent le plafond, son ventre s'écrase contre les murs. Et finalement, poussé par les éléments, la tête baissée comme un bélier, les yeux fermés et sans papier, ramenée à la frontière, à la lumière exorbitante de la vie au grand air. Monsieur Brindavoine est passé par où tout le monde est passé.
Il est né.
Ce fut une explosion dans sa poitrine et dans ses poumons. C'est un garçon, a dit quelqu'un. Un garçon nommé Brindavoine, et qui depuis a eu 400 maisons qui jamais ne lui ont donné entière satisfaction. La chaleur de juillet fait vibrer le ciel au-dessus des avoines. La fermière a fermé les volets, puis avec le panier et le cidre frais à bicyclette à travers pré, elle va porter la collation au moissonneur, qui l'attendent à côté des chevaux en sueur à l'ombre des ormes. Elle longe le petit bois, elle pense qu'il y aura de l'orage pour ce soir. C'est les grandes vacances, c'est dans les années 50, dans la ferme, au-dessus du petit Morin, en Seine-et-Marne, en France. Boubou les poulettes ont 8 et 9 ans. C'est Poulette la plus grande. Ils sont cachés dans le petit bois. Poulette dit que c'est comme une île, que c'est leur île. Personne ne le sait, personne ne vient là. 3 gouttes de rosée dans une toile d'araignée, une fraise, un ressort de saunier, une limace, 2 champignons et des fougères à la saison. Depuis que le Tour de France est passé à La Ferté, Bouboule porte une casquette en papier avec de la réclame pour Gondolo, le biscuit qu'il vous faut. Il a mangé tous les biscuits sans le dire à Poulette, mais elle s'en doute, depuis qu'ils sont petits, Bouboule mange tout le temps. Au contraire, Poulette est une allumette, une future grande bringue sèche comme sa mère. Avec des branches et des fougères, Bouboule et Poulette se sont fait une cabane dans un hêtre au-dessus des noisetiers. Et de là, allongé, il scrute le vaste monde, il voit sans être vu. Un cageot fait la cheminée, un vieux sac sert de rideau, les murs sont en branches, la toiture en fougère, le lit, une couverture trouée de la guerre, du pain, du chocolat, des confitures volées, du bonheur en été. Il y a des requins qui passent parfois dans les parages, des bateaux avec des pirates, des pirogues avec des sauvages. Une fois, ils ont entendu des pas, et des voix tout bas, des souffles, et des branches qui craquaient, des cris de quelqu'un qu'on étouffe. Et ils ont reconnu la bonne de chez Jarry avec le Marcel de l'autocar. Et voilà qu'un jour de cet été-là, Poulette n'avait plus envie de rien. C'était bien la première fois. Bouboule avait fabriqué une arbalète pour chasser la panthère noire, une panthère noire qui s'était enfuie du cirque Moreno et semait la frayeur jusqu'à Saint-Cyr-sur-Morin. Mais Poulette ne voulait pas. Bouboule voulait creuser un grand trou avec des branches dessus pour faire un piège à panthère, mais Poulette ne voulait pas. Bouboule voulait profiter qu'il n'y ait personne à la ferme pour aller décrocher le fusil d'Alfred, prendre les cartouches dans le tiroir sous la TSF et en finir avec cette panthère. Mais Poulette ne voulait pas. Ce jour-là, Bouboule voulait, mais Poulette ne voulait pas. Bouboule taillait des flèches. Il s'est arrêté et il a refermé son couteau. Son premier couteau. Un beau couteau que son père lui avait acheté au marché de Jouarre. Il l'a replié et il s'est assis à côté de Poulette. Poulette ne disait rien. Elle faisait des dessins dans la terre avec un bâton. Bouboule regardait son couteau. Il ne disait rien, lui non plus. Et le temps passait. Le temps était une petite araignée qui avançait très lentement sur une brindille. Poulette regardait l'araignée. L'araignée est arrivée au bout de la brindille. Elle s'est arrêtée. Elle voulait s'en retourner, et puis non. Elle s'est jetée dans le vide et Poulette a parlé. Si on s'embrasse très fort, on pourrait mourir. Bouboule a ouvert son couteau. Il l'a essuyé avec son maillot de corps. Et il a refermé son couteau. Et il a dit... Je vais retrouver Pierrot aux écrevisses à la rivière, je lui ai promis. Poulette a répété, si on s'embrasse très fort, on pourrait mourir. Bouboule avait envie de rejoindre Pierrot. On peut choper des grenouilles aussi. Il suffit de leur tirer dans l'œil, pile avec la sarbacane. Il s'est levé pour partir. Il cherchait quelque chose à lui dire. T'es folle, je t'aime pas. T'es même pas forte, t'es toute maigre. Il tournait en rond. Elle allait pleurer, elle allait partir, tout devenait compliqué. Mais Poulette ne pleurait pas. Elle n'avait pas bougé. Il a rangé son couteau dans sa poche et il s'est assis à côté d'elle. Il aurait pu faire le contraire, mais il est resté. Côte à côte, assis sur un tapis de mousse qu'elle avait mis pour les invités, si les invités un jour venaient. Il n'avait plus envie de s'en aller. Quelqu'un d'autre tuerait la panthère. Pierrot peut-être, mais tant pis. Au loin, on entendait le bruit de la moissonneuse et des voix qui criaient après les chevaux, d'autres qui riaient. La fermière était rentrée, les bouteilles vides dans son panier. Elle préparait les seaux pour traire les vaches. Elle avait rouvert les volets. Elle avait ramassé les légumes au jardin pour la soupe, allumé le bois dans l'immense cuisinière. Très loin, la cloche d'un clocher, la voix de la mère de Poulette en colère, le passage de l'autocar Citroën, sur la route de Coulommiers. Le soir, il y a eu de l'orage.
C'est tout.
C'est tout ce qui s'est passé. Je ne sais rien d'autre. Je sais seulement que c'est là, ce jour de cet été-là, près de cette cabane de branches et de fougères, dans ce petit bois, au temps des grandes vacances, du pain et du chocolat, au temps où il y avait des chevaux dans les champs, au temps des paniers et du cidre pour les moissonneurs, pas loin du Petit Morin, en Seine-et-Marne, en France. C'est là que Bouboule a perdu son couteau.
Un bon fermier découvrit un matin dans sa basse-cour une poule fort étrange.
Viens donc, Mélie, viens m'en voir, je croyais en main que la noire a quelque chose qui la démange. Elle a l'air quadrate, elle n'a pas l'air méchante, mais pour ce qu'elle chante, j'y comprends rien. Elle fait, tiens, écoute-la, elle fait...
Il était un grand mur blanc, nu, nu, nu. Contre le mur, une échelle, haute, haute, haute. Et par terre, un hareng sort, sec, sec, sec. Alors il monte à l'échelle, haute, 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 et plante le cou pointu, toc, tout en haut du grand mur blanc, nu, nu, nu. Il laisse aller le marteau, qui tombe, qui tombe, qui tombe. Attache un clou à la ficelle, longue, 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 et au bout, le hareng sort, sec, sec, sec. Il redescend de l'échelle, haute, 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 l'emporte avec le marteau, lourd, 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 et puis il s'en va ailleurs, loin, loin, loin. Et depuis, le hareng sort sec, 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 au bout de cette ficelle, longue, 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 très lentement se balance, toujours, toujours, toujours. J'ai composé cette histoire, simple, 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 pour mettre en fureur les gens graves, 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 et amuser les enfants petits, petits, petits.
Je me baladais sur les boulevards lorsque je rencontre l'ami Bidard. Il avait l'air si estomacé que je lui ai demandé de s'expliquer. Eh bien, voilà, me dit-il, je viens d'avaler ma pendule. Alors je vais chez le chirurgien car j'ai une peur de chien.
que ça me tombe dans les vestibules. Un mois après, je revois mon copain. Il avait l'air tout ce qu'il y a de plus rupin. Alors je suis, j'ai qu'elle trouvait, et je la consommée de s'expliquer.
Eh bien, voilà, me dis-tu, je gagne ma vie avec ma pendule. J'ai sur l'estomac un petit cadran, je vends le rein tous les passants.
En attendant, j'ai le cadran sur les vestibules. Il suicida,
il suicida,
lorsqu'il eut vu que personne l'a pira. Et comme j'arrivais,
et comme j'arrivais,
juste sur le chantier,
juste sur le chantier,
moi je lui ai demandé qu'il vienne s'expliquer.
Eh bien, voilà, me dit-il, j'en avais assez d'avoir une pendule.
Une pendule,
ça m'a pêcher de dormir la nuit. Pour la remonter, fallait me faire un trou dans le dos.
Je préférais être pendu, pendu. Lorsqu'il fut mort, j'ai à son enterrement. C'était le matin, ça m'ennuyait bien. Mais lorsqu'il fut dans le trou, parce qu'on rigola. Quand au fond de la bière, le septième coup de midi, ta-ta.
Eh bien, voilà, 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 il avait avalé une pendule.
Ça n'arrive pas à tous les chrétiens, même à ceux qui ont un estomac de chien et du cœur dans les vestibules. Oui, du cœur.
Voilà, celui qui avait avalé sa pendule, c'est un poème de Raymond Queneau. C'est Frère Jacques qui chantait ça. Et auparavant, vous avez dit un poème de Charles Cros, le Arançor, le célébrissime Arançor. Et les autres histoires, ben, c'est des histoires que j'ai écrites au cours de ces années de radio. Il y a bien longtemps, pour certaines, au temps de L'Oreille en Coin, il y a au temps de France Culture, une petite émission que je faisais, une petite séquence qui s'appelait Interdite aux adultes, où j'avais raconté un jour l'histoire de Rigaudin, parce qu'autrefois, Rigaudin, c'était le plus grand comédien. Rigaudin était célèbre dans le monde entier, et le monde entier venait au théâtre le voir jouer. Il était jeune, il était beau. Partout, on voyait sa photo sur les affiches, dans les journaux. Rigaudin, le grand comédien. Et dans le plus grand théâtre de Paris, Rigaudin jouait une pièce avec un seul personnage, un vieux. Un très vieil homme qui racontait sa vie. Et Rigaudin le jouait si bien. Il savait si bien se courber, marcher à petits pas et faire trembler un peu sa main comme ça que le public n'en revenait pas. Alors il restait là pour applaudir Rigaudin, le grand comédien. Chaque soir, Rigaudin arrivait au théâtre 2 heures avant le spectacle. Il s'enfermait dans sa loge devant son miroir. Avec le plus grand soin, il se maquillait comme on fait un dessin. Il mettait d'abord un fond gris pâle, un peu fané, puis avec un crayon, il dessinait les rides autour de la bouche et autour des yeux. Avec un gris plus foncé, il faisait des joues en creux. Avec un peu de mauve, il traçait des cernes sous les yeux. Il mettait une perruque, avec seulement quelques cheveux blancs, et des petites lunettes en fer sur le bout de son nez tombant. Et enfin, il enfilait son costume. Un vieux costume de vieux. Dans le théâtre, le public attendait l'instant où Rigaudin apparaîtrait. Enfin, dans la salle, la lumière s'éteignait. Les 3 coups battaient comme le cœur des spectateurs. Le grand rideau rouge se levait. On ne voyait rien. Juste un peu de lumière. quelqu'un qui toussait, et puis un pas qui arrivait à petits pas. Un gadin. La frêle silhouette ressemblait à une branche morte que le vent d'hiver fait bouger. À peine si on entendait la voix fragile raconter l'histoire irréparable. Parfois, il s'arrêtait, le regard suspendu, comme si quelqu'un allait venir, un fils, un camarade, un amour de jeunesse. Et tout le temps passé, tout le temps perdu, risible silhouette écrasée par l'immense nuit qui marche. Enfin, sa main bougeait un peu, comme un adieu. Cœur serré, souffle retenu, mouchoir blanc dans le noir. Et à la fin, c'était une explosion de bravo. 10 fois, 20 fois, Rigadin venait saluer. Mais pendant qu'on l'acclamait encore, il regagnait sa loge par un petit escalier dérobé, et là, il s'enfermait la clé. Devant son miroir, il se démaquillait. Il enlevait les lunettes en fer, il enlevait la perruque avec les quelques cheveux blancs, il enlevait les rides et les cernes violets. Comme on gomme un dessin, il effaçait son personnage. Il enlevait ses habits de vieux et il retrouvait les siens, les élégants habits du grand comédien Rigadin. Devant la porte, les admirateurs l'attendaient avec des bouquets, des billets, des femmes très belles, des ambassadeurs, des princes ottomans, tous les grands de ce bas monde se pâmaient. Quelle merveille, c'est un magicien, quel est son secret, il faut l'inviter au palais. Mais par une petite porte, Rigadin s'en allait. Et c'était ainsi tous les soirs. Rigadin, en effet, avait-il un secret? Il ne répondait à aucune question. Il préférait rentrer chez lui à pied sans se presser. C'était le mois de mai, et dans la nuit parfumée avec son long manteau et son grand feutre noir, le grand comédien faisait sonner sa pommeau d'argent sur le boulevard Saint-Germain. Il prend une petite rue pavée qui conduit vers la Seine. C'est par là qu'il habite, au numéro 3, au 6e étage, juste sous les toits. Il monte le premier étage d'un pas léger. Une raison de se presser, personne ne l'attend. 6 étages, c'est haut. Rigadin ne va pas trop vite, la représentation l'a un peu fatigué. Et quand même au 4e, il s'arrête pour souffler. Il monte plus lentement, plus péniblement. Enfin, voici le 5e. Encore un étage à monter. Le grand comédien, épuisé, monte marche par marche en se tenant à la rampe. Plus que 3 marches. 2. 1. Devant sa porte, il reprend sa respiration. Avec des gestes ralentis, il trouve enfin sa clé. Il entre, il allume une lampe et il se laisse tomber à bout de souffle dans un vieux fauteuil devant un miroir. Et alors, il essuie lentement son visage. Et voilà des rides qui apparaissent autour de la bouche et autour des yeux. Sous les yeux apparaissent des cernes mauves. Il frotte encore, et voilà ses joues qui se creusent. Il enlève sa perruque et voici son crâne, avec quelques cheveux blancs. Alors, en tremblant, il met ses petites lunettes en fer au bout de son nez tombant. Et dans le miroir apparaît enfin le vrai visage de Rigadin.
À tout petit, tout a grandi. Et quand tout le monde est prêt, on l'envie. Qui t'est payé, ou est plus loin. Qui ça qui nous, qui mieux qu'ici. Et même si, m'en conseiller. Et même si, m'en raisonner. Qui est parti, car le destin, c'est de ne pas croire. Samoun Kati. Mais avant parti, bien rappeler ceci, que c'est ton pays qui est le plus joli. Oh, 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 oh peut emporter assez d'argent pour acheter mille mouchoirs où peut pleurer. Si vous comptez un jour trouvé sous les cieux un coin qui mieux, moi des bons dieux avant trop vieux, si tu peux faire tes adieux. Car c'est ton pays qui est le plus joli. Car c'est ton pays qui est le plus joli.
Le chat et le perroquet.
Il était une fois un bien étrange chat. Une fois, il était noir, une fois il était bleu, une fois il était gris. On savait pas trop à quoi s'en tenir avec lui. Et en plus de ça, ce chat avait des yeux bien curieux. L'un était en or et l'autre en argent. Un chat vraiment extravagant. Or, la même fois, il y avait un perroquet. Un perroquet modeste, sans rien d'étonnant, le même imperméable, la même cravate, la même moustache que tous les autres perroquets. Et voilà qu'un beau jour, le chat, ce chat exagérant, téléphone au perroquet. « Venez dîner ce soir chez moi !» Et le perroquet, très courtois, a dit « Oui, je vous remercie !» Et il se met en route avec ses beaux habits. Mais sur la table, déception. Il n'y a qu'une arête de poisson. « Mangez, mangez, voyons mon cher ami, vous n'avez guère d'appétit !» disait le chat noir, ou bien bleu, ou bien gris, en souriant de toutes ses dents à son ami. Le perroquet, sourire petit, n'osait rien dire, et sans manger, s'en est retourné en remerciant pour le dîner. Le menu l'avait sans doute un peu déçu, mais sans rancune aucune, notre perroquet, très courtois, à son tour, invita le chat. C'était un très grand dîner. Il y avait pour commencer 12 brochettes de souris grillées. Slip, slop et gobidabidé. Le chat, d'un coup, a tout mangé. Après quoi, il y avait 18 saucisses de Francfort, 4 jambons de Paramé, un bœuf entier et quelques porcs. Slip, slop et gobidabidé. Hop, le chat a tout avalé. Il y avait pour faire bombance les plus fins des vins de France et du champagne, bien entendu. Slip, slop et gobidabidu, le chat en rotant a tout bu. « Tout ça m'a mis en appétit, » dit-il debout sur la table, engloutissant une montagne de desserts, de nouilles et de crème chantilly. « J'oserais même vous demander si nous allons bientôt manger !» Le perroquet, qui n'avait pas absorbé la plus petite miette, dit « c'est-à-dire je n'avais pas prévu. » Alors, sans le moindre respect pour les lois de l'hospitalité, le chat, slip, slop, gobidabida, le chat dévora le modeste et poli petit perroquet, slip, slop et gobidabidet. Et là-dessus, il partit par les rues. Un peu noir, un peu gris, un peu bleu, avec ce regard, comme je disais en commençant, un œil en or, l'autre en argent. Il sifflotait en marchant, mais malgré le bruit de la rue, on entendait distinctement dans son ventre le pauvre perroquet qui appelait au secours. Quel drôle de chat! Dit un chien qui passait, il répète comme un perroquet. Viens le dire ici si t'es un homme. Slip slop, gobidabidum. Quand le chien s'approcha, le chat l'avala. Où est mon chien? Dit un enfant. Je vais t'aider à le retrouver, dit le chat en le dévorant. Mon enfant, pleurait la maman, et hop, avec un rire amer, le chat avale la pauvre mère. Et ainsi de suite. Slip, slop, gobidabivite, slip, slop, gobidabidu, le chat a mangé tous les gens de la rue. Dans les rues avoisinantes, les pauvres gens chez eux s'étaient cachés. Mais slip, slop, gobidabidon, sans faire les présentations, le chat a tout mangé, y compris les maisons. À peine une minute plus tard, il avait mangé les boulevards. Le temps de compter jusqu'à 10, il avalait notre obélisque. À 12, il avait mangé tout le Louvre. À 16, c'était le Père Lachaise. À 20, c'était le Quartier Latin, la Seine, avec les péniches, Montmartre avec les Angliches, Notre-Dame, les Champs-Élysées, et même, et oui, la Tour Eiffel, pourtant si dure à digérer pour quelqu'un de bien entraîné.
Le temps de compter jusqu'à 100, il avalait le grand lit blanc où dormait notre président avec sa charmante épouse qui sourit si gentiment. Et même les policiers qui jouaient sous le lit à la bataille payante se retrouvèrent dans le ventre de ce chat-là, tantôt noir, tantôt bleu, tantôt gris, comme je crois vous l'avoir dit, avec ses yeux surprenants l'un en or et l'autre en argent. Et c'est ainsi qu'en moins d'une nuit, il avala tout le pays. Le matin, très assoiffé, il but la Méditerranée. Avec les bateaux d'une seule traite, d'un seul coup, on vit disparaître l'Afrique, la Russie et l'Orient, les montagnes et les éléphants. Et comme c'était l'heure de déjeuner, il a mangé ce qui restait, slip, slop et gobidabidé. Et alors, enfin repu, il est allé faire une petite sieste. Mais comme il avait tout mangé, dans son ventre, tout le monde s'est retrouvé. Le monde entier. Et petit à petit, on a tout réparé. On a tout remis dans l'ordre, c'est-à-dire dans le désordre du monde. Mais on n'a jamais trouvé la solution pour sortir du chat en question. Eh oui, depuis ce temps-là, la terre tourne à l'intérieur d'un chat. Quand il est bleu, le ciel est bleu. Quand il est gris, le ciel est gris. Quand il est noir, c'est la nuit. Son œil en argent, c'est la lune. Le soleil, c'est son œil d'or. Et quand on voit des parapluies, c'est le perroquet qui fait pipi.
Monsieur C.
Au pays de l'alphabet, où les lettres sont des êtres, Monsieur C devenait minuscule. Plus personne ne voulait de lui. Toujours occupé à l'ABC, son voisin, Monsieur D, le trouvait ridicule. Il se voyait très rarement, à part dans les enterrements, quand quelqu'un était décédé. De l'autre côté du palier vivait la belle Madame B. Sans cesse en silence, C rêvait de ses boucles, ses pleins et ses déliés. Même en majuscule, elle n'était pas trop ronde comme Madame O ou trop frêle comme Madame L. Il rêvait d'elle, surtout la nuit, avec des bottes D, Q, I, R, sur un cheval qui N, I. Mais C était trop coincé. Il voulut lui envoyer une lettre, mais il ne sut jamais laquelle. Un soir, qu'il rêvait encore dans la rue des conjugaisons, il la vit passer, enlacée au bras de A. « Eh oui, lui dit une voix, B-A-B-A, tout le monde sait ça. Ils sont attachés depuis toujours. Il n'y a que toi pour ignorer ça, présomptueux petit C. » C'était bien sûr la voix de D. Le cœur brisé, Monsieur C se mit à en vouloir au porte-plume qui l'avait engendré. Il traînait dans les marges, il voulait s'abréger. Mais un soir, dans un bar, il rencontre le K. Un ami à lui, qui le remplace parfois dans les mots des langues lointaines où les Kanaks vont en kayak et les Kakis boivent le kawa. « Mon cher ami, dit Monsieur K, allez donc voir Monsieur E. Il pourra vous aider. Il a tellement de succès dans les dictionnaires de français. » C alla voir E, célèbre pour ses casquettes aiguës et ses bérets graves. Mais on lui dit qu'il était dans l'eau, on lui dit qu'il était muet. Et Monsieur C s'en retourna. Chemin faisant, il croise Y, le philosophe. « Pourriez-vous m'aider ?» demande C. « Circule, virgule, ou je t'apostrophe !» lui dit le savant courroucé. Et C va par les rues de plus en plus courbées. En passant, il donne machinalement un coup de poing sur un « i » qui pourtant ne lui avait absolument rien dit. « C'est assez. C'est assez. J'ai besoin de ma R.E. » Mais un soir, alors qu'il errait dans les forêts de l'alphabet, en passant près d'une rivière, il entend chanter un air. « M, M, il faut aimer. M, M, tu seras aimé. » En écartant un peu les branches, Monsieur C voit Mademoiselle U, qui dans l'eau nage toute nue. Elle a toute ôté, tant L-H-O, C fut frappé par la beauté du. C'est elle, se dit-il, c'est elle. Il court se mettre en majuscule, il chausse sa plus belle cédille. C'est elle, il croit à ses amis. Elle, oh, lui dit Hervé, tu es plein d'énergie. Elle, oh, lui dit LN, qui fait ses HA, car elle a KC, sa QIRAT. Tu es tout énervé. Mais sans écouter, il court, et enfin il s'arrête, tout boule RC, et il tombe au pied de la lettre. Depuis longtemps, je vous cherchais. J'ai traversé tout l'alphabet, et c'était bien monotone. Oh, je vous aime, jolie voyelle. Nous sommes faits sur le même modèle pour quelqu'un qui s'est dessiné. 13 MU, U, ne sait plus où se mettre. Je reçois tellement de lettres. Elle était employée dans un ordinateur. Le soir même, à 5 heures tapantes, il se retrouvait derrière l'imprimante. Et voilà qu'à son tour, juste avant le premier baiser, U entendit l'air enchanté. M, M, il faut aimer. M, M, tu seras aimé. Alors, comme une parenthèse, le cœur du s'ouvre assez pour laisser passer C. Bien vite, le bruit se répandit et chacun sortit de sa boîte aux lettres afin de composer des mots et des phrases au hasard qui montèrent dans un autocar pour aller à la noce qui eut lieu dans l'Aisne. La petite U était très belle, avec son chapeau circonflexe et sa robe en calligraphie. Faute d'orthographe et photographe, tout le monde était invité. À la sortie de la mairie, on donna des coups de klaxon qui faisaient des points d'exclamation. Une petite virgule se ferma, une grosse parenthèse sur les doigts, mais bien vite on la consola. « Ouvrez les guillemets !» dit le A. Alors, la fête commença. Les 10 chiffres invités arrivèrent en premier, à part le numéro 3 qui s'était perdu dans les bois. Chacun sur son 31 s'était mis en 4. On put voir le numéro 6, qui mangeait beaucoup de saucisses. Il y avait les frères 7, 8, 9, tout contents dans leurs habits neufs. Il y avait des caractères venus des quatre coins de la terre, des Russes, des Arabes, des Chinois qu'on ne comprenait vraiment pas, venus d'Éthiopie, d'Arménie, hiéroglyphes et graffitis dans des robes de gala. Le cousin W, venu d'Angleterre, mangea du HI à la petite QR. L'inconnu monsieur X fit une apparition en jetant sur la table de façon regrettable quelques mystérieux points d'interrogation. Il y avait un tiret qui avait bu un coup de trop, il voyait double et savait pas s'il parlait à un point ou à un tréma. Et pour faire rigoler la noce, tonton Y faisait le Z. Enfin, pour mettre un point final à la fête, il y eut un grand bal, et toutes les lettres dansèrent au son d'un vieil abécédaire. Les mariés, pour leur lune de miel, partirent 8 jours en italique. Puis, à Paris, ils logèrent chez le G, pas très loin de la tour Eiffel, dans un petit livre en carton. Pour ne pas faire d'indiscrétion, arrêtons ici cette histoire avec des points de suspension. C'était l'histoire de Monsieur C, qui épousa Mademoiselle U. La dernière fois que je les ai vus, ils attendaient un petit cul.
Les meufs rêvèrent, je courais dans l'air.
Mais attends, pas un coup.
La tonne,
les petits géants exagèrent énormément.
Eh ben moi, mon père, il est plus fort que ton père.
Eh ben moi, mon père, il est plus fort que ton père.
On entend ça souvent à la récré entre les enfants. Eh ben moi, mon père, il est plus fort. Eh ben moi, mon père, il est plus grand.
Eh ben moi, mon père, il est plus grand.
Tu exagères, disait ma mère. Ton père n'est pas un géant.
Eh ben moi, mon père, il est plus fort.
Et c'est dommage, je me disais. Et je demandais à ma mère...
Qu'est-ce qu'ils se disent, les enfants de géants, quand ils parlent de leur père?
Les petits-enfants exagèrent, mais les petits-enfants géants exagèrent énormément, répondait maman. C'était au temps, il y avait encore des géants à Paris. Aujourd'hui, on ne croirait pas, mais autrefois, des géants dans les rues, on en voyait très souvent. Et n'écoutez pas ceux qui vous disent que je mens. Une fois, pour voir, je suis monté sur le toit. Je me suis fait tout petit et caché derrière une cheminée. J'ai écouté ce que se racontaient les petits enfants géants. « Eh ben moi, mon père, disait l'un des enfants géants, mon père, il est tellement fort et tellement grand qu'un jour, à la chasse, il a tué 32 vaches. » Mais il était embêté, il n'avait pas de sac pour les rapporter. Alors vite, il se retourne à la maison, il revient 3 minutes plus tard, mais plus rien, plus une seule vache. Il cherche partout, il cherche sous les feuilles, sous les montagnes, et tu sais quoi? C'est son chien qui avait tout mangé. « Eh ben moi, mon père, dit un autre enfant géant, les vaches, il les mange en brochette, avec quelques oignons et quelques cochons, ça fait un goûter délicieux, presque aussi bon que les éléphants à la crème. »«
Eh ben moi, mon père, il est tellement grand, tellement fort, que les poteaux télégraphiques, ils s'en fait des cure-dents.
Et ben moi, mon père, il est tellement fort et grand que quand il plonge dans la mer, ça fait des vagues jusqu'en Angleterre.
Et tout en parlant, les enfants géants jouaient avec les péniches qui voguaient sur la Seine. D'un doigt, ils les poussaient jusqu'à Rouen, ou bien ils jouaient au train électrique avec la gare du Nord. Paris, c'est un joli coffre à jouets pour les petits géants.
« Attendez-moi, j'ai fait tomber un autobus dans ma boîte de 7 lieues. »
Pour l'attendre, les autres se sont assis sur les toits. Pour passer le temps, ils attrapaient des avions qui passaient dans le ciel, ou bien ils soufflaient sur les nuages, et le soleil revenait, et ils poursuivaient leur conversation.
« Eh ben moi, mon père, une fois dans la forêt, il y avait un arbre tellement gros et tellement grand qu'il fallait 3 jours pour en faire le tour, 3 jours en courant. Il fallait une grue pour enlever chaque feuille morte. Et quand un gland vous tombait sur la tête, il fallait 2 jours pour vous déterrer. Alors mon père est arrivé. Il a remonté ses manches de géant et d'un seul coup, il a déraciné le grand chêne et du deuxième coup, il a pris son élan et l'a jeté très loin dans le pays voisin.
Alors, le dernier petit géant qui n'avait encore rien dit, a dit.
Eh ben moi, ma mère,
elle est tellement forte et tellement grande qu'un jour, elle a pris une marmite, une grande marmite, pour se faire un dé à coudre, pour recoudre ma culotte que j'avais déchirée en jouant avec la tour Eiffel. Elle était en train de coudre tranquillement, mais soudain, ouh, voilà une poussière qui lui tombe dans l'œil. Ma mère, ça la faisait pleurer, et pour vous donner une idée, chaque larme qui coulait, chaque larme qui tombait par terre, ça faisait un étang avec des canards et des poissons et des sous-marins et des baleines dedans. Quand même, au bout d'un moment, de son sac à main, ma mère a sorti son armoire à glace. Et délicatement, elle a enlevé la poussière qu'elle avait dans l'œil. Et vous savez ce que c'était, cette poussière de rien du tout? C'était un arbre. Et plus précisément, c'était le grand chêne que ton père avait lancé depuis le pays d'à côté. Là, quand même, les autres enfants étaient un peu étonnés. « Tu exagères, » a dit un des autres enfants géants. Et j'ai repensé à ce qu'avait dit ma mère.
Les enfants exagèrent, mais les enfants des géants exagèrent énormément.
C'était la Bastille suite de Daniel Mermet. Remerciements appuyés à Maud et Garance Scharf, à la technique Jean-Philippe Jeanne et Christophe Goudin, réalisation Antoine Chao, assisté de Coy Nguyen, chef du répondeur Christophe Imbert. Si vous souhaitez laisser vos messages de Noël à Daniel Mermet, vous avez plusieurs possibilités. Le répondeur de la Bastille suite au 01 56 40 37 37, le fax 01 56 40 41 07 ou le mail daniel.mermet@radiofrance.com.